Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui nous donne le plaisir d'accueillir un duo d'auteurs européens pour la parution d'un essai original à plus d'un titre chez Economica, Capitalisme et cohésion sociale. Ce sont les professeurs Mario Amendola et le professeur Jean-Luc Gaffard. C'est Jean-Luc Gaffard qui représente ce duo aujourd'hui. Monsieur le professeur, bonjour.
Bonjour.
Cet ouvrage, je rappelle qu'il paraît chez Economica, 180 pages, 19 euros, pour préciser les choses. Alors vous êtes l'un et l'autre professeur d'université. Mario Amendola est professeur à l'université de Rome, la Sapienza. Et vous-même, vous êtes professeur des universités, membre honoraire de l'Institut universitaire de France, professeur à Schema Business School et directeur de département à l'Observatoire français des conjonctures économiques. Vous avez obtenu le prix Schumpeter délivré par l'International Schumpeter Society en 2008 pour votre ouvrage « The Market Way to Rich ». Vous avez traité un thème sur deux sujets qui sont souvent considérés comme antinomiques, le capitalisme et la cohésion sociale. Mais la crise du XXIe siècle, qui n'est pas un simple accident de parcours, dites-vous, est venu bousculer bien des certitudes, y compris celles qui permettaient de croire dans, je vous cite, « les vertus d'une concurrence libérée de toute entrave, assurant spontanément un bien-être individuel et social maximum ». Cependant, contrairement aux vieilles idées des décideurs, l'instabilité est de retour, témoignant des changements structurels, rarement anticipés, d'une ampleur et d'une récurrence surprenantes. Aussi fallait-il, vous préconisez ceci, revenir à une idée simple. Les banques centrales existent pour résoudre les problèmes d'instabilité endémique des systèmes financiers et non pas pour garder un taux d'inflation définitivement nul. Alors on va revenir sur ces différents points. Votre thèse centrale est donc de ne pas simplement opposer libéralisme et interventionnisme, mais ceux, je vous cite là encore, qui croient en une société idéale et les esprits raisonnables ou critiques qui, conscients de l'impossibilité de connaître l'ensemble et la subtilité du fonctionnement de l'économie, cherchent à tirer de l'expérience des leçons qui permettent d'éviter le chaos. Alors, monsieur le professeur, ce que vous dites en quelque sorte, c'est que sans foi sur le métier, il faut remettre votre ouvrage.
Tout à fait. Je crois que l'idée principale que nous avons voulu développer, c'est que l'économie de marché, dont il faut convenir qu'elle a gagné contre les économies administrées, n'est pas une économie non régulée. C'est au contraire une économie dans laquelle l'État est intervenu de manière assez systématique et de manière plutôt cohérente. Et ce pourquoi nous développons un plaidoyer, c'est en faveur d'un libéralisme et d'un libéralisme interventionniste. Je voudrais souligner une idée tout à fait hétérodoxe aujourd'hui, à savoir que ce libéralisme interventionnisme, il est probablement commun à des auteurs qui semblent aussi différents que Adam Smith et John Maynard Keynes. Simplement, ils n'écrivaient pas au même moment, ils n'étaient pas confrontés au même type de problème. Et il faut savoir que quand Smith condamne l'intervention publique, c'est l'intervention de l'administration d'ancien régime. Et ceci n'a évidemment rien à voir avec les nécessités d'une régulation macroéconomique telle que les économies modernes ont pu le connaître, évidemment, à partir de la crise de 1929. Et il semble bien qu'aujourd'hui, la crise économique devant laquelle nous nous trouvons est une crise économique qui a bien des points communs avec la crise de 1929. Elle témoigne de l'instabilité récurrente des économies de marché et probablement du renoncement à un certain nombre de mécanismes régulateurs qui avait permis cette croissance continue, forte, pendant quelques 30 années après la Deuxième Guerre mondiale. Probablement, la vraie question est que l'extension des marchés, l'extension nécessaire et profitable des marchés après la chute du mur de Berlin, n'a pas été accompagnée d'une extension comparable du champ géographique de la régulation publique. Et c'est probablement là la vraie question qu'il faut aujourd'hui se poser, qui est une question qui se pose évidemment à l'échelle du monde, mais qui se pose également à l'échelle de l'Europe. La question européenne est bien de savoir comment on régule un monde qui est parfaitement intégré du point de vue de l'organisation de ses marchés.
Alors la question européenne, mais aussi d'autres idées que vous qualifiez d'iconoclastes, par exemple celle de considérer que la société de défiance que certains dénoncent, certains auteurs ont dénoncé, qui s'est installée à l'époque moderne, notamment en Occident, n'a pas que des défauts, en quelque sorte, ou que ne représente pas que des risques, et de même que les frictions et les différents problèmes, rigidités qui interviennent sur le marché du travail ne sont pas aussi pervers que l'on peut le croire. Enfin, en tout cas, c'est votre thèse. Alors, est-ce que vous pourriez développer ce point ?
Tout à fait. Alors, je crois qu'il faut dissocier en fait les deux questions. Il y a tout d'abord la question de savoir comment une économie qui est soumise par nature à des chocs structurels, qui en font d'ailleurs la force, pourquoi cette économie est instable et à quelles conditions on peut remédier à cette instabilité. Et l'idée toute simple qui, au fond, commune, qui devrait être commune à des économistes et à des physiciens, c'est qu'on a besoin de friction, on a besoin de rigidité pour qu'un système dynamique ne soit pas chaotique ou ne subisse pas de fluctuations erratiques. Donc on a développé l'idée générale suivant laquelle les marchés sont nécessaires, les marchés sont un lieu de coordination et en fait ils fonctionnent quand ils sont le lieu d'ajustement lent et graduel. Et il se trouve que c'est une analyse qui est développée tout à fait clairement par un économiste réputé comme étant un des papes du libéralisme, voire du néolibéralisme, à savoir Hayek. Et donc, les marchés qui fonctionnent sont des marchés sur lesquels ces ajustements sont lents et graduels, je le répète. C'est vrai des marchés de biens, c'est vrai des marchés du travail, et c'est vrai aussi des marchés financiers dont on a oublié qu'ils ne pouvaient fonctionner que s'ils étaient le siège de restrictions financières, et en particulier d'un contrôle des flux de capitaux. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, on peut confondre l'idée de rigidité, l'idée de friction, avec le fait que des phénomènes de défiance pourraient finalement être des phénomènes utiles. Alors, je crois qu'à ce niveau-là, il faut distinguer deux points de vue, un point de vue microéconomique, le point de vue des individus, et un point de vue global. Du point de vue des individus, il est clair que la cohésion sociale repose sur ce que Adam Smith appelait le sentiment de sympathie, c'est-à-dire sur une confiance réciproque, sur le fait que chacun veut qu'on se comporte vis-à-vis de lui comme lui voudrait que les autres se comportent vis-à-vis de lui-même. Donc, c'est clair que la cohésion sociale repose sur la confiance et qu'une société qui génère des phénomènes de défiance entre les individus est une société forcément en difficulté. Donc, nous ne condamnons pas du tout ce point de vue. En revanche, je pense qu'au niveau global, au niveau de la société dans son ensemble, le propre de notre économie, c'est d'engendrer des conflits d'intérêts, des conflits d'objectifs qui ne sont pas liés à des comportements de tricherie ou d'opportunisme, qui sont dans la nature du développement économique tel que nous le vivons et qui est la source de sa propre richesse. Et dans ces conditions, des arbitrages sont nécessaires entre ces conflits et ces arbitrages relèvent forcément de l'expression des conflits, de pouvoir démocratique et évidemment, dans ce cadre-là, nous nous souvenons que la démocratie repose sur la séparation des pouvoirs et sur le fait que chaque pouvoir arrête les autres pouvoirs. Et donc, c'est en ce sens que Rosan Vallon explique que les sociétés modernes sont des sociétés fondées sur la défiance démocratique. Mais je crois qu'il ne faut pas confondre cette idée de défiance démocratique, d'équilibre des pouvoirs, avec la nécessité que les individus soient systématiquement en situation de défiance vis-à-vis de leurs voisins.
Je vais simplement lire un passage justement sur ce point. La démocratie, bien de luxe ou bien publique. Je vous cite. S'il existait un optimum fruit de l'action individuelle d'acteurs anonymes impliquant l'absence de tout conflit, il n'y aurait besoin que de règles produites par les entre guillemets bonnes théories ou par entre guillemets les bons experts. La croyance en l'existence d'un équilibre de long terme uniquement déterminé par des données sur les technologies et les préférences conduit à vouloir neutraliser le politique, on y reviendra tout à l'heure, en imposant des contraintes strictes au gouvernement. Je renvoie nos auditeurs à ce développement qui est assez remarquable et que je leur laisse découvrir. Mais vous revenez aussi sur un autre aspect qui est celui du, quelque sorte, du rôle et de la place de l'État, où vous précisez que l'État n'est ni bienveillant ni omniscient et le choix n'est pas entre un modèle social réputé trop généreux et la croissance, mais la soutenabilité de cette croissance dans l'instabilité structurelle. Alors, plus d'État, vous êtes pour ou contre vous ?
Je crois que l'État et le marché ne sont pas des substituts. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de société qui serait correctement gouvernée par la seule fonction des marchés ou une société bien gouvernée par la seule fonction des États. Tout simplement parce que les marchés et les gouvernements sont nécessairement imparfaits, ne sont ni omniscients ni bienveillants, ni les uns ni les autres. Et je veux dire que cette idée ne nous est pas personnelle, elle est propre à un certain nombre d'économistes qui se sont penchés sur les problèmes, notamment de la relation entre la démocratie et la croissance. Je pense en particulier à Danny Roderick de la Kennedy School, qui explique que le rôle fondamental de la démocratie, c'est de permettre d'atténuer les fluctuations. Et en atténuant les fluctuations, on obtient un taux de croissance moyen qui est plus élevé. Ce qui veut dire effectivement que la démocratie, comme je l'indique, est un bien public et non pas le bien de luxe que pourraient simplement se payer des sociétés évoluées qui accepteraient d'avoir un revenu global plus faible pour avoir un accès à des procédures démocratiques. Je crois que les procédures démocratiques sont tout à fait au cœur des mécanismes qui rendent les économies de marché viables.
Il faut inverser en quelque sorte la proposition.
Je crois que l'État et le marché sont des compléments. Et il se trouve que quand vous lisez à leurs époques et en fonction des problèmes qu'ils traitent, des gens comme Adam Smith, comme John Stuart Mill, comme Joseph Schumpeter, comme Friedrich Hayek et comme Keynes, on s'aperçoit que l'État et le marché sont pour tous ces auteurs des compléments. Simplement, c'est vrai que le curseur n'est pas exactement au même endroit et que je ne peux pas, de ce point de vue, assimiler évidemment Hayek et Keynes. Mais néanmoins, personne ne va à l'encontre du rôle de l'État. Et en particulier, je cite encore Hayek qui nous explique que le libéralisme, dans le sens où il veut le promouvoir, n'a rien à voir avec la doctrine du laisser-faire. Et de ce point de vue-là, il se réfère effectivement à Smith qui dit à peu près la même chose dans les mêmes termes.
Et que ce que certainement Turgot disait aussi en son temps, on prétend d'ailleurs un peu avant que Adam Smith reprenne ça à son compte.
Alors, je suis content que vous citiez Turgot parce que j'utilise Turgot dans une direction qui n'est pas souvent mentionnée. C'est-à-dire que Turgot est effectivement un précurseur et par exemple, c'est un précurseur dans la compréhension du mécanisme de la division du travail où il explique que la division du travail a une dimension essentiellement verticale et nous explique que comme conséquence de la division du travail, il va falloir payer les ouvriers avant de pouvoir obtenir le produit que leur activité permet de fabriquer. Et ceci pose un problème qui est le problème du temps nécessaire à l'accumulation du capital. Et il se trouve que cette question est remise sur le devant de la scène par un prix Nobel d'économie auquel nous nous référons très souvent et dont nous sommes en quelque sorte les élèves. Je cite John Richard Hicks.
Autre aspect des choses, voilà donc ce que vous avez pu développer sur ces aspects entre capitalisme et cohésion sociale. Vos propositions, je sais bien que c'est un essai, mais vos propositions concrètes pour aller dans le sens de plus de cohésion sociale, enfin un lien avec l'actualité, si vous aviez deux grandes idées, ce seraient lesquelles? Alors vous seriez d'ailleurs probablement ministrable à ce moment-là.
Sans doute, oui.
Mais non.
Disons que je pense que la première idée qui est importante, c'est qu'il n'y a pas de viabilité d'une économie de marché s'il n'y a pas une relative égalisation des revenus et des richesses. Et je pense que l'une des origines fondamentales de la crise que nous vivons, avant qu'il y ait des désordres monétaires, il y a eu un changement drastique dans la répartition des revenus dans un certain nombre d'économies, évidemment l'économie des États-Unis, mais aussi la Grande-Bretagne et plus récemment l'Allemagne. Et il se trouve qu'une très forte inégalité dans la répartition des revenus pèse sur la taille de la demande et par conséquent réduit le taux de croissance potentiel. Ceci va de pair avec une idée suivant laquelle il n'y a pas de développement soutenable sans l'existence d'une classe moyenne relativement importante. Et c'est probablement l'un des défis devant lequel se trouvent confrontés non seulement nos économies occidentales, mais également l'économie chinoise. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on ne peut pas se limiter à considérer le long terme. Et vous avez vu que dans cet ouvrage, nous prenons le contre-pied de l'idée sur laquelle le long terme l'emporte sur le court terme. Nous reprenons l'idée de Keynes, à court terme, nous sommes tous morts.
Absolument.
Mais en reprenant la totalité de sa citation, il nous indique simplement que si l'on ne maîtrise pas les déséquilibres du court terme, ces déséquilibres vont se prolonger, vont s'amplifier, vont se développer, et le long terme mythique ne pourra jamais prévaloir. Ce qui veut dire que ce serait une erreur de penser qu'en sacrifiant les générations présentes, on donne tout bénéfice aux générations futures. Et vous avez sans doute remarqué que de ce point de vue-là, nous avons rapproché Keynes d'Albert Camus, qui nous dit que le mieux pour les générations futures, c'est de tout donner aux générations présentes.
C'est une phrase extrêmement jolie, que l'on retiendra peut-être avant de conclure. Mais avant de conclure complètement, je voudrais peut-être revenir un tout petit peu sur votre post-script, qui en fait apporte une note un peu plus sombre, une espèce d'optimisme qui traverse votre remarquable essai. Je vous lis la partie de la conclusion qui peut-être résume assez bien votre pensée. La raison voudrait que l'on renverse les termes du débat et qu'au lieu de voir dans la réalisation d'équilibres improbables la condition de la croissance, l'on fasse de la gestion éclairée des déséquilibres le moyen de résorber les inégalités sociales et territoriales préjudiciables à la croissance. Il y faut une volonté politique qui permette non seulement de dépasser les intérêts constitués, mais aussi de rompre avec les idées établies. L'avenir économique et politique de l'Europe en dépend. La survie du capitalisme aussi, car il serait hasardeux d'imaginer que ce qui se passe en Europe n'aura pas d'effet sur le reste du monde. Alors, il y a quelques mois que vous avez écrit cet ouvrage, 3 mois ont passé, vous êtes un tout petit peu plus optimiste, ou enfin, en tout cas, vous faites un grand appel au retour du politique.
Voilà, ce que je veux dire, c'est que l'économie est politique, c'est-à-dire que les économistes, au fond, leur fonction, c'est de proposer les termes d'un débat, les termes d'un arbitrage, et au bout du compte, les arbitrages sont nécessairement des arbitrages politiques, parce que il résulte de choix entre des intérêts qui peuvent être divergents ou conflictuels. Et c'est la raison pour laquelle il faut développer des moyens démocratiques d'expression et de résolution de ces conflits. Dans le cadre de l'Europe aujourd'hui, effectivement, on peut être pessimiste. Je terminerai en parlant d'actualité, c'est-à-dire vous avez certainement vu que M. Mario Draghi, qui est aujourd'hui en responsabilité de la Banque Centrale Européenne, parle de pacte de croissance et de la nécessité de compléter le pacte budgétaire par un pacte de croissance, mais sans oublier de mentionner que pour lui, la croissance reposerait uniquement sur des réformes structurelles qui sont définies par rapport à l'existence présumée d'un équilibre de long terme qui malheureusement est mythique. Et je pense qu'aujourd'hui, la vraie question, c'est de savoir concilier le court terme avec le long terme, c'est-à-dire avoir la capacité de développer une politique de croissance à l'échelle européenne et donc une politique combinée de croissance entre les États européens, mais en même temps, savoir franchir les difficultés du moment et donc probablement prolonger quelque peu les déficits budgétaires et la dette publique au lieu de s'en tenir à une austérité généralisée dont chacun voit aujourd'hui qu'elle ne peut produire qu'une récession aggravée.
Bien. Eh bien, écoutez, c'était les convictions du professeur Jean-Luc Gaffard et de Mario Amendola, vous parliez en son nom, que vous avez repris dans la parution L'essai récent qui vient de paraître chez Economica, Capitalisme et cohésion sociale, un ouvrage de 180 pages, 19 euros. Monsieur le professeur, merci d'être venu sur notre antenne et à très bientôt.
Merci beaucoup.